France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette semaine, c'est la philosophie d'un anti-philosophe que nous explorons, Blaise Pascal. Et aujourd'hui, place à une querelle qui a eu lieu au XVIIe siècle et à laquelle Pascal a pris sa part, une querelle théologique entre jésuites et jansénistes autour de la grâce, soit ce secours que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Si ce débat vous semble éloigné, détrompez-vous, car il s'y joue des questions morales tout à fait intemporelles, comme par exemple, suis-je responsable de faire le mal? Comment désirer le bien? Et Dieu, dans tout ça, quelqu'un peut-il m'aider ou suis-je totalement livré à moi-même?
Ces désirs qui nous inondent et se traduisent peu à peu en des instants de fin du monde, merci mon Dieu. Pour ce destin que l'on se forge avec des larmes au fond des yeux et des joies qui prennent à la gorge, merci mon Dieu. Mon cœur s'en allait en déroute de lendemain en lendemain, quand tu m'as éclairé la route et montré le chemin, celui de l'espoir qui délivre et remplace les songes creux par une folle envie de vivre. Merci mon Dieu. L'amour que tu as conçu pour nos âmes solitaires fait que nos regards perdus sont ruisselants de lumière. Ils regardent le ciel ébloui, simplement pour te dire merci. Pour ces désirs qui nous inondent et se traduisent peu.
Bonjour Laurent Thirouin.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur émérite de littérature française du XVIIe siècle à l'université Lumière Lyon 2, spécialiste de Pascal, de Port-Royal et des moralistes classiques. Et bonjour à vous et bienvenue Anne Susini-Régent.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'université Sorbonne Nouvelle, directrice de l'équipe de recherche Formes et idées de la Renaissance aux Lumières. Alors je l'ai dit, on va aborder aujourd'hui une querelle qui a eu lieu au XVIIe siècle entre jésuites et jansénistes autour de la grâce. Alors je vous avoue, je suis complètement dépassée, ignorante du sujet, donc vous allez tout m'apprendre. Que s'est-il passé au XVIIe siècle? Pourquoi y a-t-il eu une querelle? Est-ce d'ailleurs une querelle, une controverse, un débat? Ça concernait qui? Ça a eu quelle ampleur? Qui veut commencer pour me présenter cette querelle? Laurent Thirouin.
Allez, je me lance.
Lancez-vous.
Comment Pascal s'est-il trouvé pris dans cette histoire?
Ah ben oui, on fait une semaine Pascal, donc là,
c'est la question subsidiaire.
Que vous, oui. Et essentielle.
Voilà. En fait, c'est une conséquence assez directe de la réforme protestante du XVIe siècle et de l'insistance sur l'importance de la grâce. Alors, la grâce, le terme nous paraît un petit peu aujourd'hui étranger. Il traduit un certain nombre de réalités. D'ailleurs, quand on le trouve dans les langues anciennes, en grec ou en latin, il y a plusieurs mots qui peuvent servir. Auxilium, l'aide, l'instrument, ce qui vient vous secourir, mais aussi, on l'oublie, il ne faut pas l'oublier, en grec, charis, la grâce, c'est ce qui rend quelqu'un de gracieux. C'est ce qui fait que je suis porté vers lui. Voilà.
Et donc, qu'on emploie aujourd'hui, d'ailleurs.
Qu'on emploie aujourd'hui, voilà.
Quand on parle de grâce, voilà. On parle de quelqu'un de gracieux, finalement. Voilà. Donc, de charme,
voilà,
aussi.
Il ne faut pas oublier qu'il y a ça dans la grâce. Et puis, dernier sens, je crois que c'est bien de nous le mettre en tête avant de commencer à raconter toutes ces histoires, c'est que gratia, la grâce, et gratis, c'est la même racine. La grâce, c'est ce qui est donné gratuitement. C'est ce qui n'a pas de cause. D'où un certain nombre de problèmes logiques, juridiques, qui vont surgir.
Et pourquoi parce que autre question aussi, on va se demander en quoi Pascal est concerné, mais en quoi aussi ça nous concerne aujourd'hui la grâce, parce que vous l'avez dit Laurent Thirouin, vous avez rappelé les différents sens de ce terme de grâce, la polysémie qui du coup peut nous concerner, mais quand même c'est une question qui nous semble bien lointaine. Est-ce qu'aujourd'hui la grâce ça peut évoquer quelque chose, est-ce qu'il y a des, disons-le dès le début de l'émission, est-ce que cette querelle du XVIIe siècle, elle a une résonance pour nous?
Je crois que les enjeux philosophiques sont énormes. Et si on se contentait de raconter les débats théologiques, on donnerait l'impression que c'est une histoire éculée. Alors, il me semble qu'il y a, deux enjeux philosophiques fondamentaux. D'abord, c'est le rapport de l'homme à son propre vouloir. Quelle maîtrise a-t-il sur son propre vouloir? Ce qui est une question tout à fait vertigineuse. Et la deuxième question, on pourrait dire, c'est celle de l'autonomie et de l'hétéronomie.
Quelle différence vous faites entre ces deux dimensions, c'est-à-dire avoir la maîtrise sur son vouloir et sur son autonomie, parce que ça peut être la même chose en fait?
Pas exactement, parce qu'on peut soi-même se fixer des règles que l'on n'arrive pas à suivre ou considérer qu'on est soi-même l'origine des règles que l'on s'est données, ce qui est d'une autonomie. L'acceptation que la loi morale soit extérieure à moi-même est quelque chose qui s'imposait, on va dire, avant la réforme, et qui aujourd'hui me semble être exclu dans les mentalités. Depuis Kant.
Depuis Kant. Anne Susini-Régent, est-ce que vous pouvez nous présenter alors cette... on va réaborder ces trois dimensions. Qu'est-ce que la querelle? Comment Pascal y a pris part? Et en quoi ça nous concerne? Est-ce que vous pouvez nous présenter cette querelle? Pourquoi elle a eu lieu? Comment est-ce qu'elle a explosé? Est-ce que c'était un truc dingue à l'époque?
Alors, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup, en effet.
Mais qui n'importe qui
Alors, justement, l'une des singularités de l'action que va être la publication de ces lettres qu'on appelle les provinciales.
Donc, de Pascal.
De Pascal, écrit, en tout cas, dont Pascal est le principal rédacteur. Ça va être de mettre une querelle qui, vous venez de le dire, au fond, par ses enjeux et par sa terminologie également, pouvait paraître être réservé à des spécialistes, à des experts, à des théologiens, et dans une large mesure, l'était. Et donc la créativité, l'inventivité formelle qui vont caractériser les provinciales, qui correspondent aussi à un choix stratégique, celui d'en appeler à un public plus large et non expert, ça va être l'une des originalités fortes de ces textes, qui installe la polémique dans un espace nouveau et qui, de ce point de vue-là, peuvent être considérés comme un jalon essentiel dans l'histoire de la polémique, mais peut-être plus largement dans l'histoire de la communication publique, dans la mesure où ils contribuent à leur manière à ce qu'on pourrait envisager comme, au fond, la préhistoire d'une opinion publique.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, va se créer ce qui n'existe pas encore, le public, l'opinion publique, et les provinciales de Pascal y a contribué à partir de ce débat sur la grâce, c'est ça?
Oui, à partir d'un débat spécialisé, complexe, a priori réservé aux experts, on en appelle au jugement de tout public, je dirais, de bonne foi et de bon sens. Et ce geste-là me paraît assez fondamental pour l'idée aussi que nous nous faisons à l'heure actuelle de ce qu'est une polémique.
Alors justement, est-ce qu'on parle de querelle, Laurent Thirouin?
Pour être un peu plus polémique, je dirais, avec aussi derrière quelque chose qui relèverait de la naissance du complotisme et même de certaines formes de populisme, avec l'idée, les experts vous mènent en bateau. Ils vous confisquent.
Ah, il y avait ça déjà dans
c'est fondamental.
Ah bah dites-nous, on va être plongé là-dedans.
C'est le début, c'est le début de la première provinciale. Nous étions bien abusés. On était trompés. On nous a fait croire que ces choses étaient importantes. Puis c'est la stratégie de Pascal au début des provinciales, c'est de dire, on nous fait passer pour une grande affaire quelque chose qui n'a strictement aucune importance. Donc, on a inventé une hérésie pour des raisons qui sont des raisons politiques. C'est la chose à quoi il faudra revenir aussi, sur quoi il faudra revenir. Pour Pascal, c'est un sujet politique que celui des provinciales. Et les jésuites, avant d'être donc les ennemis de Pascal, dans les provinciales, les ennemis de Port-Royal, les jésuites, avant d'être des théologiens, sont des politiques.
Ça, c'est vraiment intéressant. On va l'entendre avec le premier texte, justement, des provinciales, qui est la deuxième lettre. Mais avant de l'écouter, est-ce que vous pouvez nous resituer le débat? Et c'est vraiment, vraiment passionnant, parce que ça veut dire que Pascal a voulu appeler chaque lecteur, chaque lectrice à se prononcer sur ces questions, Laurent Thiroin, à savoir l'autonomie, à savoir aussi le vouloir dans son articulation avec la grâce. Alors c'est quoi les termes du débat ? Qui s'oppose et sur quel point et en quoi c'est susceptible de concerner chacun d'entre nous au XVIIe siècle ? Anne Fusinier et Jean.
Oui, alors le débat est ancien en réalité. Hein. Le débat, il est presque aussi ancien, je dirais, que le christianisme lui-même, puisque la question de fond, c'est celle d'une articulation entre le vouloir de Dieu et le vouloir de l'homme. Comment articuler la toute-puissance de Dieu et la liberté de l'homme ? Comment les concilier ? Si Dieu peut tout, qu'est-ce qu'il reste pour le libre-arbitre humain ? Mais d'un autre côté, si l'homme est pleinement libre de décider, et notamment donc de décider autre chose que ce que Dieu a décidé, comment peut-on parler d'omnipotence divine ? Donc il y a là un problème, hein, de toute évidence, il faut chercher une forme de concordia discors, d'accord entre les contraires. Et c'est un défi dont il n'est pas très étonnant que Pascal se saisisse pour les raisons qu'on va exposer ensuite, parce qu'il y est de fait impliqué en raison de ses liens avec Port-Royal, mais qui correspond aussi très bien à la structure de pensée, je dirais, qui est celle de Pascal. Vous avez intitulé cette série d'émissions « Grandeur et misère ». Et en fait, c'est une structure jouant sur l'accord de termes antithétiques de ces couples qui apparemment semblent inconciliables, qui est récurrente chez Pascal. Il y a une liasse des pensées qui s'appelle « contrariété bon, ».
Qui renvoie à ça, justement.
Voilà. Donc, c'est un défi qui est à la fois, je dirais, très pascalien et en même temps pas du tout spécifique à Pascal, dans la mesure où il s'inscrit dans la très grande durée.
On pourrait dire, Anne Fusinier et Jean, parce que questionner sur le libre arbitre sur le fait d'être déterminé ou pas, je finis juste, c'est une question qui nous concerne tous, Alors là, c'est pour la grâce, mais c'est
donnons les quelques jalons historiques quand même pour se repérer. Donc, le premier grand jalon, c'est la dernière polémique de Saint-Augustin, donc 4e, 5e siècle. Saint-Augustin a eu à affronter plusieurs adversaires, les manichéens au début, les donatistes au milieu de sa carrière, et à la fin de sa vie, les pélagiens, c'est-à-dire des religieux qui pensaient que l'homme était suffisamment fort pour bien agir sans aucune autre aide. Et pour Saint-Augustin, et pour un chrétien, il est important que le Christ soit nécessaire. Si le Christ n'est pas nécessaire, le christianisme a plus du tout de raison d'être. Voilà.
Donc il faut bien défendre le...
Donc en fait, un autre nom de la grâce, c'est le Christ lui-même. Le Christ est celui qui donne la grâce et qui est la grâce. Donc pour saint Augustin, c'était très important de prendre la défense et du Christ et du salut et de la grâce apportée par le Christ contre des gens qui étaient des espèces d'athlètes, de virtuoses, qui se croyaient très forts. Donc Saint-Augustin est du côté des faibles, les pélagiens sont du côté des forts. Après, pendant longtemps, la pensée de Saint-Augustin s'est imposée à toute l'Église, si bien qu'on en a parlé un peu comme le docteur de la grâce, et ses solutions ont été les solutions retenues. Puis au moment de la Réforme, n'oublions pas que Luther était un moine augustin, au moment de la Réforme, les choses se sont crispées pour des raisons essentielles, sur lesquels on reviendra tout à l'heure, mais là je reste historique. Et donc, l'Église a été mise au défi de se positionner par rapport aux protestants. Et les grands ennemis des protestants, c'est-à-dire les jésuites, ceux qui s'étaient vraiment fondés pour faire une contre-réforme catholique, ou une réforme catholique, comme on préfère dire aujourd'hui, eh bien, les jésuites ont eu à cœur de définir une nouvelle théologie, qui est une théologie beaucoup plus humaniste, qui laisse beaucoup de place à l'homme.
Et à la responsabilité individuelle.
À la responsabilité individuelle, à la liberté individuelle. Et ça a provoqué un premier clash à la toute fin du XVIe siècle, quand on s'était réuni à Rome pour mettre ses pendules à la même heure. C'est ce qu'on appelait les congrégations De Auxiliis. Ça a duré une dizaine d'années et ça n'a débouché
sur... 10 ans ?
Oui. À Rome, on essayait de trouver une solution pour pouvoir parler d'une seule et même voix. Mais
pour concilier toutes ces nuances,
voilà.
Justement.
Donc ça a usé deux papes. Les jésuites ont failli...
Il y en a deux sont morts, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que ça a duré sous deux pontificats. Non, ils ne sont pas morts de ça, mais ils sont morts à ce moment-là.
Oui. Ça a duré longtemps,
ça a duré longtemps. Les jésuites ont failli être condamnés, mais ils ont réussi, par un certain nombre de manœuvres habiles, à échapper à la condamnation. Et à cette occasion, le jansénisme, ou le prétendu jansénisme, n'existait pas. Les adversaires des jésuites et de leur théologien en chef, qui était Molina, c'était les dominicains, qui, eux, étaient... par définition, les héritiers, les porte-parole de saint Thomas d'Aquin et de la grâce augustino-thomiste. Voilà.
Donc c'est dans ce cadre que se développe la pensée de Pascal. Quel parti prend-il ? On dit de Pascal qu'il est janséniste, on dit qu'il s'est converti notamment, enfin en plusieurs temps, mais il y a eu notamment une conversion quand son père a eu un accident, a été soigné par deux médecins jansénistes, voilà, on est en 1646, puis lui-même après est victime d'un accident, la circulation en 1654, et là il a une deuxième conversion. Est-ce que c'est juste de dire que Pascal est du côté des jansénistes ? Et comment définir le jansénisme ? Anne Fusinier, je vois que Laurent Thierry vous suggère, vous souffle des choses.
Non, il s'agit effectivement de comprendre pourquoi. D'abord, pourquoi ce débat reprend, puisque après l'échec des congrégations...
On pourrait dire que c'est un débat qui est enterré et qu'on ne peut pas trancher, en fait.
Tout à fait. C'est en quelque sorte un groupe de travail qui n'a pas marché, pourrait-on dire.
Ce qui arrive souvent, en fait, dans les débats. D'ailleurs, c'est presque parfois le propre des débats de ne pas être trancher, en fait, de continuer. On ne peut pas trancher comme ça d'un coup. Je pense par exemple à des débats comme sur la fin de vie. C'est un débat est-ce qu'il pourrait être tranché une fois, enfin.
Alors exactement, et c'est un débat qui, à force de ne pas être tranché, divise de plus en plus l'intérieur même de l'Église catholique. Donc le pape enjoint de ne plus finalement évoquer publiquement ces questions. Bon, c'est une injonction qui ne sera pas véritablement respectée, mais qui tout de même va aboutir à déplacer assez largement le débat un peu plus au nord en Europe, et en particulier à Louvain, qui est le siège en quelque sorte d'une forte opposition aux jésuites, et où un professeur, Baius, puis un autre qui s'appelle justement Jansénius, Cornelius Jansen, vont réaffirmer ce qu'ils estiment être la doctrine augustinienne. Pour Jansénius, il va s'agir de publier un ouvrage majeur pour la question qui nous occupe, donc qui s'intitule l'Augustinus, dont le pape va condamner en 1653 cinq propositions donc attribuées à Jansénius. Et Antoine Arnauld, le grand théologien de Port-Royal, va prendre la défense, en fait,
de
Jansénius, ce qui lui vaut des ennuis très sérieux avec la Sorbonne, qui vont être le point de départ de la publication des Provinciales, qui sont d'abord publiées pour défendre Antoine Arnauld. Mmh. Et donc, il y a là une manière de reprendre ce débat à partir des thèses attribuées à tort ou à raison à Jansénius, et défendues donc dans le cadre de Port-Royal. Pascal se trouvant, comme vous l'avez dit, à la suite d'expériences et de choix divers liés à Port-Royal, il va, semble-t-il, prendre l'initiative de défendre Antoine Arnauld d'une nouvelle manière, c'est-à-dire à un moment où on sent la situation mal engagée. Il va s'agir de faire appel justement à peut-être d'autres instances que les seules théologiques.
Mais pour qu'on comprenne bien, Laurent Thierouin, quelle est la position du jansénisme par rapport à cette question du libre-arbitre et de la grâce ?
D'abord, pour répondre à votre question précédente de façon très claire, qu'est-ce que veut dire jansénisme ? Qu'est-ce qui parle de jansénisme ? Voilà. Comment le mot a surgi ? Bon, il faut bien comprendre, dans un premier temps, c'est une insulte. Janséniste, ça veut dire, vous êtes un disciple d'un théologien taré du nord de l'Europe, qui est mort de la peste, parce que toute cette histoire se développe après la mort du dit Jansénius. Jansénius, très savant, qui se vantait d'avoir lu plusieurs fois toute l'œuvre de Saint-Augustin, et qui produit un immense résumé de l'œuvre de Saint-Augustin. Et puis il meurt, et l'œuvre paraît après sa mort. Et donc, ce sont un certain nombre de personnes qui accusent leurs adversaires d'être des jansénistes. Mmh. Comme vous pourriez dire, je ne sais pas quoi, comme vous pourriez dire un sciotiste, vous êtes un partisan de Ciotti, comme vous pourriez dire un mélanchoniste.
Un wokiste.
Voilà, c'est un terme insultant. Pour dire, vous ne pensez pas par vous-même, vous n'avez pas d'idées intéressantes, vous n'êtes qu'un janséniste. Les accusés de jansénisme se considéraient simplement comme des, comme des fidèles de Saint-Augustin, comme des lecteurs de Saint-Augustin, des gens qui croyaient à Saint-Augustin. Donc eux disaient, on est des Augustiniens.
Et donc, ils croyaient au fait que l'homme n'était pas seul, mais que la grâce divine existait. Alors, c'est ça. Alors, parce que là, si on parle du débat en tant que tel, il y a une montée de la question de la responsabilité individuelle.
Ils croient tous que la grâce existe, sinon ils ne seraient pas chrétiens. Ouais. Donc, ils ont quand même en commun d'être chrétiens.
Mais c'est la grâce qu'ils leur accordent.
Voilà, et c'est la fonction, c'est le rôle de la grâce.
Alors dites-nous en quoi,
alors,
là.
Voilà. Donc, moi je crois, si je veux donner très rapidement, très schématiquement, et sans doute un peu faussement, une image de Saint-Augustin, je dirais que c'est une pensée du désir. Saint-Augustin regarde l'homme comme un organisme désirant. Et depuis la chute, car pour les chrétiens, même si cette notion est très très mystérieuse, et même pour Pascal elle est très mystérieuse, hein, et très incompréhensible, il admet qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est que le péché originel. Mmh. Mais il considère que le péché originel a complètement changé le rapport de l'homme à ses actes et à son vouloir. Ça en a fait quelqu'un de soumis à son désir. Donc, la grâce, ça va être, pour les Augustiniens, une réorientation du désir. Une façon de ne plus trouver sa joie dans quelque chose dont on pense qu'elle va vous donner votre joie, mais qui en fait ne va jamais vous la donner, mais la tourner vers une véritable solution de bonheur. Mmh. Donc en cela, c'est une conversion, c'est un retournement. On pourrait dire, en prenant le terme de grâce gracieux, c'est-à-dire que ce qui vous semblait plaisant, appétissant, convoitable, change. Vous aviez très envie, je ne sais pas moi, penser que toute votre joie, ça pouvait être, de gagner au loto. Si je pouvais gagner au loto, ma vie changerait complètement, je serais un autre homme.
Je serais heureux.
Je serais heureux, voilà. Donc, tout le monde sait bien que c'est faux, évidemment. Mais on a tous, comme ça, des idées de ce qui nous rendrait heureux. Et puis, si par malheur, ces idées sont réalisées, on se rend compte que c'était des mauvaises idées, que ça ne nous rend pas heureux. Si on parle en augustinien, comme d'ailleurs Saint-Augustin lui-même l'avait expérimenté dans sa jeunesse, je courais derrière de faux bonheurs et la grâce va illuminer quelque chose qui mérite vraiment mon désir. Donc d'un seul coup, je désirais autre chose. Donc je vais passer d'un plaisir à un autre plaisir. Une des grandes formules d'Augustin qui est reprise en permanence dans le milieu de Port-Royal, c'est une phrase, je vais vous la donner en latin mais je la traduirai tout de suite, elle est dans un commentaire de l'Épître aux Galates, quod amplius nos delectat, neque seust segundit operemur, ce qui nous délecte le plus, c'est nécessaire que nous agissions conformément. On suit toujours son plaisir. Donc, la grâce, pour répondre simplement, c'est un changement de plaisir.
Ce qui ne correspond pas à l'idée qu'on s'en fait comme une aide extérieure qui vient de Dieu.
Alors ça, c'est moliniste, ce que vous dites.
Je suis moliniste.
Vous êtes moliniste, mais on est tous molinistes, en fait.
Mais oui, parce que c'est la définition de la grâce.
Ouais, voilà. Non, ce n'est pas la définition, mais c'est celle qu'aujourd'hui, on a imposée.
Ah ouais, ça, c'est intéressant de dire qu'on n'a pas retenu la définition de la grâce.
On s'est écarté en fait, pour des raisons qu'il faudra expliquer.
Une nouvelle pensée, en fait, presque de conduite de ses désirs.
Donc, on est un agent autonome, légèrement infirme, mais quand même pas totalement infirme. Mm-hmm. Et on a besoin d'une petite aide pour donner consistance à nos désirs, étant donné que ces désirs restent nos désirs.
Et donc cette petite aide, et c'est là où on retrouve quand même...
Et là, ça sera la grâce.
Ce sera la grâce, et cette aide, on est d'accord qu'elle ne vient pas forcément de soi, mais de Dieu.
Non, elle vient de Dieu, mais Dieu nous l'accorde. Alors, soit vous allez dire, il l'accorde à tout le monde, et chacun l'utilise à son gré. Mm-hmm. Ça, c'est la solution moliniste. Et ça rend fou les Augustiniens. Et Pascal a commencé.
On va essayer de comprendre pourquoi. J'aimerais qu'on écoute tout de suite un extrait des Provinciales, la deuxième lettre qui est datée du 29 janvier 1656. Une parabole qui nous permettra de comprendre justement ces différents positionnements par rapport à la grâce.
Je considère l'Église comme un homme qui, partant de son pays pour faire un voyage, est rencontré par des voleurs qui le blessent de plusieurs coups et le laissent à demi-mort. Il envoie acquérir trois médecins dans les villes voisines. Le premier, un Augustinien, ayant sondé ses plaies, les juge mortels et lui déclare qu'il n'y a que Dieu qui lui puisse rendre ses forces perdues. Le second, un jésuite, arrivant ensuite, voulut le flatter, et lui dit qu'il avait encore des forces suffisantes pour arriver en sa maison, et insultant contre le premier qui s'opposait à son avis, forma le dessein de le perdre. Le malade, en cet état douteux, apercevant de loin le troisième, lui tend les mains, comme à celui qui le devait déterminer. Celui-ci, dominicain, ayant considéré ses blessures et sur l'avis des deux premiers, embrasse le second, s'unit à lui, et tous deux ensemble se liguent contre le premier et le chassent honteusement, car ils étaient plus forts en nombre. Le malade juge à ce procédé qu'il est de l'avis du second, et, le lui demandant en effet, il lui déclare affirmativement que ses forces sont suffisantes pour faire son voyage. Le blessé, néanmoins, ressentant sa faiblesse, lui demande à quoi il les jugeait-elle. C'est, lui dit-il, parce que vous avez encore vos jambes. Or, les jambes sont les organes qui suffisent naturellement pour marcher. Mais, lui dit le malade, ai-je toute la force nécessaire pour m'en servir? Car il me semble qu'elles sont inutiles dans ma langueur. Non, certainement, dit le médecin, et vous ne marcherez jamais effectivement si Dieu ne vous envoie un secours extraordinaire pour vous soutenir et vous conduire. Et quoi, dit le malade, je n'ai donc pas en moi les forces suffisantes et auxquelles il ne manque rien pour marcher effectivement? Vous en êtes bien éloigné, lui dit-il. Vous êtes donc, dit le blessé, d'avis contraire à votre compagnon touchant mon véritable état? Je vous l'avoue, lui répondit-il.
Extrait de la deuxième lettre des provinciales. Alors, vous l'avez dit, Anne Susigny-Régent, les provinciales, ce sont 18 lettres, alors en partie fictives, réelles, écrites par Blaise Pascal. Le but, c'est de défendre le théologien janséniste Antoine Arnauld. Et qu'est-ce qu'on vient d'entendre à ce moment-là? On est dans la deuxième lettre, donc il y a quand même une structure peut-être à rappeler des provinciales pour les auditeurs et les auditrices, et puis aussi leur rappeler voilà, que ce texte, il ne correspond pas tout à fait à ce qu'on peut lire dans les provinciales. C'est important de le dire, on l'a adapté.
Oui, tout à fait. Alors, ce texte, d'ailleurs, est assez atypique au sein même hein, des provinciales. En gros, la structure des provinciales, ce sont donc 18 lettres, dont les 10 premières vont inclure des dialogues d'un honnête homme qui vient se renseigner auprès de divers interlocuteurs, dominicains, jésuites, etc., sur les questions débattues, notamment la question de la grâce, mais aussi des questions morales. Et puis, les 8 lettres suivantes sont des lettres directement adressées, ou en tout cas qui font mine d'être directement adressées à des jésuites bien, bien réels et qui donc sont, pourrait-on dire, semi-fictives, alors que les 10 premières sont véritablement fictionnelles. Alors ici, on a un passage assez particulier qu'on appelle parfois la parabole de la deuxième provinciale, qui est une sorte de, on pourrait dire, petite fiction dans la fiction des lettres, et qui expose à un moment de crise les positions en présence. Alors le contexte, c'est celui des affrontements en Sorbonne qui sont en train de tourner très mal pour Port-Royal, dans la mesure où Port-Royal comptait sur une alliance au moins partielle avec les dominicains, ici le dernier médecin.
Et qui est vraiment le pire. Hein.
Qui est vraiment le pire, en tout cas, qui est celui qui clairement est la cible principale de ce petit récit. Port-Royal s'est trouvé trahi par ceux qui auraient dû être ses soutiens, puisque leur vue était proche. Et par ailleurs, bon, Port-Royal a aussi perdu des appuis. Les règles du débat ont changé en Sorbonne. Et donc, par protestation, une soixantaine de docteurs qui devaient soutenir Port-Royal ont quitté l'Assemblée, mais ont du même coup, bien sûr, privé Port-Royal de soutien numérique. Toujours est-il que la situation
est... On croirait avoir affaire au débat à l'Assemblée nationale, en fait. C'est ça, c'est vraiment ça dont il est question, là.
C'est vraiment ça dont
c'est un enjeu de pouvoir, une lutte de pouvoir, les formes en présence, les alliances, les stratégies, pour défendre une idée de la grâce. Enfin, faut quand même le rappeler, c'est quand même incroyable.
Tout à fait.
C'est comme si là, on débattait à l'Assemblée nationale de la grâce. Bon, on est dans une sphère républicaine et laïque, mais voilà, c'est ça en fait qu'il faut. Il faut le voir comme ça.
En tout cas, c'est ce que dénonce Pascal. Hein. Et là, on rejoint ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que Pascal fait entrer dans le texte polémique non pas seulement la controverse entre les idées, l'opposition des idées, mais il fait entrer les réalités qu'il appellerait politiques au sens large, hein, les réalités des enjeux de pouvoir, de stratégie. Qui peuvent sous-tendre les différentes positions. Donc là, le texte, en effet, a été un tout petit peu modifié parce que l'auditeur n'a pas, comme le lecteur, pu lire notamment la première lettre et puis le début de la seconde. Donc, dans le texte originel, on ne précise pas
quel médecin représente qui, mais c'est assez
nous, on
transparent.
A rajouté Auguste, le premier augustinien, le second jésuite, celui-ci dominicain, le troisième. Donc, c'est vrai que pour l'auditeur, tout de suite, il comprend en fait quelles sont les forces en présence et comment ils peuvent s'opposer ou s'allier. Si on l'entend comme ça, effectivement, c'est un petit peu flou, on comprend presque plus l'enjeu.
Tout à fait. Alors, le texte mobilise en même temps une métaphore qui est présente sur la très longue durée, qui est un topos, un lieu commun, en fait, qui est de représenter la condition humaine après la chute, hein, blessée par le péché, comme justement une condition de blessé ou de malade, les médecins étant donc ceux qui vont pouvoir lui apporter potentiellement le remède. Ici, ce qu'on observe, c'est que le premier médecin à arriver, c'est l'augustiniste, c'est-à-dire, c'est l'augustinien, c'est le partisan, donc...
Le janséniste, on pourrait dire, sans insulte.
Alors, sans insulte, c'est difficile, puisque comme Laurent Thierouin l'a rappelé, c'est un terme...
Donc, il faut substituer augustinien à janséniste. Il faut renoncer à janséniste.
Disons que c'est un terme qui s'est imposé, je dirais, par commodité dans toute une partie de l'historiographie. Mais c'est vrai que, comme d'autres termes du même type, d'ailleurs, il est en lui-même péjoratif et même accusatoire. On pourrait en dire de même du reste de moliniste. Dans une pensée de la tradition... comme la pensée chrétienne, des néologismes qui se construisent sur un nom propre pour désigner une doctrine signalent d'emblée une anomalie.
Une forme de dissidence, presque.
Exactement.
Il y a un terme qui est très symétrique, en fait, c'est celui de casuiste.
Ah oui.
Parce qu'aujourd'hui, c'est négatif. Quand on dit, c'est un mot assez savant, mais quand on dit c'est de la casuistique, c'est un casuiste, ça veut dire qu'il embrouille les choses.
Il fait des petits cas pour particulariser.
Voilà, pour essayer de tromper le droit. Alors que à l'époque de Pascal, avant les provinciales, la casuistique, avant que Pascal ne s'attaque aux casuistes relâchés, c'est quelque chose de tout à fait respectable.
Alors Anne Susini Réjean, reprenez. Donc on a le premier, augustinien, qui va lui apporter secours en lui disant « t'es fichu ».
On peut dire ça comme ça, en même temps...
il dit,
fait, il prend aussi la pleine mesure de ses plaies. D'une part, il arrive le premier... Alors, on peut l'interpréter symboliquement comme l'ancienneté, hein, bien sûr, de la doctrine augustinienne, qui, justement, postule une forme de proximité entre l'origine et la vérité. Plus on est proche de l'origine, plus on est proche de la vérité qui n'a pas encore été corrompue par le temps. Et donc, le fait qu'il arrive en premier est en soi significatif, et on pourrait dire il prend la pleine mesure de ses plaies. Le second, qui pourrait incarner... disons les molinistes, ceux qui vont être partisans d'une vision qu'on pourrait dire certes plus optimiste de l'homme, mais qui en même temps, on l'observe dans le texte, ne le soigne absolument pas. Ne le soigne absolument pas. Le second a voulu le flatter, il le flatte au lieu de le soigner, et lui dit qu'il avait encore des forces suffisantes pour arriver en sa maison, contre toute évidence, puisque de toute évidence, s'il avait des forces suffisantes, il serait peut-être déjà en train de marcher, et c'est ce qu'il expérimentera ensuite. Par ailleurs, le deuxième positionnement de ce second médecin, c'est d'insulter le premier, qui s'opposait à son ami, à son avis, et même de l'insulter assez violemment, puisqu'il, nous dit le texte, il forme le dessein de le perdre. Et puis, quand deux experts sont en désaccord, qu'est-ce qu'on fait ? On en appelle un troisième.
Donc, la troisième voix.
Tout se passe comme prévu. Un troisième arrive, qui représente en effet le dominicain, et qui lui considère ses blessures, ce que doit faire tout de même un médecin, et semble embrasser le second, s'unir à lui, donc être du parti du second. Or, lorsque le malade l'interroge, mais donc vous êtes donc bien d'accord avec le second médecin, en l'interrogeant, il se rend compte qu'en réalité, ce troisième médecin partage l'opinion du premier, que donc son alliance avec le second n'est que de surface, et s'est fondée notamment sur un usage tendancieux ou du moins ambigu du vocabulaire, l'idée de suffisant, il a ce qui pourrait lui suffire pour marcher, il a encore ses deux jambes, néanmoins elles ne sont pas en état de pouvoir le porter. Il y a là une manière de ne pas réellement prendre en considération la blessure réelle qui est celle du malade. Et donc, ce texte est à la fois, bien sûr, pédagogique. C'est un texte de vulgarisation qui permet d'imager la querelle et le problème complexe sur lequel elle porte, et qui, en même temps, je crois, nous dit quelque chose de l'usage de la fiction
dans les provinciales, dans la mesure où, ici, la fiction produit bien sûr des effets de plaisir narratif propre. Hein, il va s'agir donc aussi de jouer sur ce plaisir dont Laurent Thiroin a parlé tout à l'heure.
Un vrai plaisir de lecture, voilà, c'est assez jouissif, il y a de l'ironie.
Absolument.
Et les positions sont tournées en dérision. On sent aussi que là, il y a de la joute verbale politique, presque. Hein,
oui.
On est dans du débat voilà, où on se cherche un peu.
Tout à fait. Et en même temps, on n'est pas dans du pamphlet pur et dur, c'est-à-dire que l'indignation que peut ressentir le lecteur elle est médiatisée par le rapport qu'il établit avec les personnages de cette petite fiction, par le fait qu'il s'identifie certainement aux malades et qu'il va s'indigner donc non pas directement contre les dominicains, même s'il comprend très bien que ce sont eux que vise le troisième médecin, mais contre le personnage qui les incarne dans cette petite parabole. Hein, donc on a là aussi ce qui fera la stratégie au fond des 10 premières lettres, c'est-à-dire certes, réveiller des affects polémiques, et en particulier l'indignation, qui est l'affect polémique sans doute par excellence, mais ne pas les projeter de façon frontale, passer par une construction fictionnelle.
Moi, ce qui me frappe aussi dans cet extrait, Laurent Thiroin, c'est le malade, c'est-à-dire qu'on part du principe que l'homme est malade. C'est-à-dire là, la question de la responsabilité individuelle face à la maladie, c'est comme si, d'une certaine manière, Pascal, avec stratégie, choisit cette figure-là pour éviter de poser la question de la responsabilité individuelle et poser tout de suite la question de l'aide. Il faut, faut quelqu'un d'autre pour être guéri.
Oui, tout à fait. Si on reste sur ce texte, et je reprends l'habitude veut, mais c'est une habitude que je trouve déplorable, veut qu'on parle du pessimisme augustinien, ou en tout cas d'un saint Augustin qui aurait glissé d'un optimisme de jeunesse quand il était anti-manichéen à un pessimisme quand il était dans la défense de la grâce. Mais si vous regardez cette situation, vous allez voir un médecin, vous êtes très malade, vous avez un cancer, et le médecin qui vous dit « ça va très bien, vous pouvez rentrer chez vous », est-ce qu'il est optimiste ou simplement incompétent?
Menteur, en tout cas, oui.
Oui, menteur. Voilà, parler d'optimisme ou de pessimisme dans ce cadre-là, et donc je reprends...
Ça n'a pas de sens.
C'est-à-dire que si on raisonne en termes de maladie, le problème, c'est qui peut me guérir? Ai-je une chance d'être guéri ou non? Et d'ailleurs, dans la toute suite de la parabole, enfin dans la fin de la parabole que vous n'avez pas eu le temps de lire, le pauvre malade qui est pris entre ces trois médecins... reconnaît, cite Pascal, reconnu par expérience la vérité de sa faiblesse. Et donc, c'est un point sur lequel je voulais insister.
Dites-le.
Avant d'être une théorie pour Pascal, ces questions sont d'abord réalistes. C'est-à-dire que le péché originel, il ne comprend pas ce que c'est. La chute de l'homme, ça lui paraît absurde. Injuste et absurde. Mais ça correspond à ce qu'il voit. Anthropologiquement, ça a du sens. C'est-à-dire que il a l'impression qu'on est devant un homme malade, un homme incapable de suivre suivre sa volonté, partagé entre divers désirs. Et donc, son premier souci, c'est de coller au réel, avant de faire de la théologie. Son deuxième souci, qui est celui du mathématicien, c'est d'être logique. C'est-à-dire, quand on emploie un terme, on comprenne ce qu'il veut dire. Quand on dit qu'une grâce est suffisante, ça veut dire qu'elle suffit. Et non pas, comme le disent les dominicains, en tout cas les nouveaux thomistes, c'est qu'elle est suffisante, mais elle ne suffit pas. Grande moquerie de Pascal dans la deuxième lettre, même si c'est à moitié honnête, parce que ça n'a pas exactement ce sens-là.
Sophie Kiens,
il le sait très bien. Et puis la dernière chose qui apparaît aussi dans ce texte, que je trouve très importante pour Pascal, c'est la dimension politique, là. Remarquez dans le texte que vous avez entendu, qu'on a tous entendu, le dominicain embrasse le second, s'unit à lui, et tous deux ensemble se liguent, car ils étaient plus forts en nombre. Donc ça, c'est une obsession de Pascal, c'est la puissance du nombre. Dans les pensées, ça portera un nom, qui est celui de pluralité. Pluralité, c'est le fait d'être plus nombreux.
Anne-Suzine Régent, vous voulez réagir?
Oui, peut-être juste pour réagir brièvement, tout à fait. Et l'une des nouveautés également des provinciales va être, pour Pascal, de construire la position d'un particulier théologien face au nombre. C'est-à-dire de quelqu'un qui déclare, ce qui n'est pas tout à fait vrai tout de même, alors qu'il n'est pas de Port-Royal, on pourrait gloser, mais en tout cas qu'il n'a pas d'attache et qu'il ne parle pas au nom d'un groupe, ce qui bien entendu est aussi une façon d'avancer une parole dégagée a priori de toute allégeance.
Ça n'est pas un porte-parole d'une certaine manière.
En tout cas, il ne se pose pas en porte-parole, mais ça veut dire également pour lui qu'il doit construire l'autorité d'une parole parole qui précisément ne s'appuie pas sur un groupe, qui ne s'appuie pas non plus sur une compétence officielle, celle d'un professeur en théologie par exemple, et qui va donc tirer son autorité de son rapport à la vérité et instaurer ce qui pour nous semble peut-être moins difficile à concevoir, mais qui est assez nouveau pour l'époque, l'idée qu'on peut parler seul au nom de la vérité. Voilà. Et que, on peut construire...
En général, ceux qui se présentent comme ça, on les trouve un peu suspects quand même, hein, non ?
C'est ce qu'en tout cas, c'est ce que...
Le loup solitaire ou la malédiction, je suis seule et j'ai raison. Bon, le temps file, donc on va diffuser une autre lettre des provinciales, c'est la quatrième, qui est présentée comme un tournant dans ce texte.
Mon père, ce mot de grâce actuelle me brouille. Je n'y suis pas accoutumé. Si vous aviez la bonté de me dire la même chose sans vous servir de ce terme, vous m'obligeriez infiniment. Oui, dit le père, je le veux bien. Nous soutenons donc, comme un principe indubitable, qu'une action ne peut être imputée à péché si Dieu ne nous donne, avant que de la commettre, la connaissance du mal qui y est et une inspiration qui nous excite à l'éviter. M'entendez-vous maintenant ? Étonné d'un tel discours, selon lequel tous les péchés de surprise et ce qu'on fait dans un entier oubli de Dieu ne pourraient être imputés, puisqu'avant de les commettre, on n'a ni la connaissance du mal qui y est, ni la pensée de l'éviter, je me tournai vers mon janséniste et je connus bien à sa façon qu'il n'en croyait rien. En m'adressant au premier, je lui dis « Béni soyez-vous, mon père, qui justifiez ainsi les gens. » Les autres apprennent à guérir les âmes par des austérités pénibles, mais vous montrez que celle qu'on aurait cru le plus désespérément malade se porte bien. Oh, la bonne voie pour être heureux en ce monde et en l'autre! J'avais toujours pensé qu'on péchait d'autant plus qu'on pensait le moins à Dieu. Mais à ce que je vois, quand on a pu gagner une fois sur soi de n'y plus penser du tout, toutes choses deviennent pures pour l'avenir. Point de ces pécheurs à demi qui ont quelque amour pour la vertu. Ils seront tous damnés, ces demi-pécheurs. Mais pour ces francs pécheurs, pécheurs endurcis, pécheurs sans mélange, pleins et achevés, l'enfer ne les tient pas. Ils ont trompé le diable à force de s'y abandonner.
France Culture. Avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait des provinciales, quatrième lettre datée du 25 février 1656. On y entend aussi toute cette ironie, Laurent Thirouin, à propos de cette question. Suis-je coupable d'avoir commis une action dont j'ignorais le mal qu'elle contenait ? Et pour un janséniste, un augustinien, c'est une question qui paraît complètement absurde. Faire le mal, c'est faire le mal, peu importe la connaissance.
Moi, c'est une lettre qui me fascine depuis très longtemps. J'aimerais que parmi les gens qui nous écoutent, un certain nombre fassent cette expérience. Mm-hmm. Bon, les provinciales, il y en a 18, c'est un peu pénible à lire, c'est compliqué. On peut pas s'y lancer comme ça.
Anne-Régent Cizini dit le contraire depuis le début en disant que c'est une expérience de lecture.
Mais
moi, c'est drôle.
Je suis d'accord, mais je veux pas.
On va pas non plus faire des effets d'annonce
Prenez la quatrième. Okay. Dites-vous, est-ce que vous partagez la même expérience que la mienne ? C'est-à-dire que quand vous commencez à lire cette lettre, en gros sur le péché d'ignorance, vous faites quelque chose dont vous ne savez pas que c'est mal et dont vous n'avez pas les moyens de ne pas le faire. Mm-hmm. Donc vous n'avez ni le savoir ni le pouvoir. Est-ce que vous êtes coupable ou pas ?
Mais oui, mais surtout que cette question est d'autant plus importante, et je ne comprends pas la réponse des jansénistes en disant « mais oui, vous êtes coupable », parce que c'est comme s'ils réhabilitaient la responsabilité individuelle qu'ils avaient écartée jusque-là.
Pour nous, c'est extraordinaire, parce que quand on lit la question, on va dire, du jésuite, c'est la première fois qu'un jésuite apparaît dans les provinciales, on est entièrement d'accord avec lui. Et plus on avance dans la lecture de la quatrième lettre, plus on est emporté par le raisonnement de Pascal. Il me semble qu'il y a peu de cas rhétoriquement où l'on voit à ce point l'efficacité du raisonnement de Pascal. Voilà. Donc, il nous montre...
Et le père jésuite devient de plus en plus ridicule, pédant, un peu naïf...
Et de plus en plus illogique.
Oui, c'est
parce qu'il y a quand même un problème central qui apparaît au cours de cette lettre, et on n'a pas le temps de le développer plus longuement, mais c'est que la grâce n'aurait plus qu'une seule fonction, dans ce cas-là, mm-hmm. c'est de vous rendre coupable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la grâce, vous n'êtes pas capable de bien agir, donc vous n'êtes pas coupable. Mm-hmm. Mais si vous avez la grâce, alors là, vous êtes vraiment coupable de toutes vos fautes. Donc, pour reprendre une question religieuse, le Christ est venu sauver les hommes pour les rendre coupables. Ce qui ne s'appelle pas vraiment sauver les hommes.
Et puis, on retrouve aussi cette figure du malade. Voilà. Alors ça, c'est important. Pourquoi cette métaphore du malade qui revient de page en page, alors que justement, avec cette question de la responsabilité individuelle, on pourrait penser à une métaphore plutôt juridique dans les provinciales.
Voilà, ça, je crois que c'est vraiment le cœur du problème. Et c'est ce qui explique pourquoi on a tant de mal aujourd'hui avec ces raisonnements augustiniens. Mm-hmm. C'est qu'on a glissé, depuis le XVIIe siècle, depuis le XVIe, XVIIe, on s'est vraiment inscrit dans une rationalité de type juridique. Et on s'est mis à assimiler complètement le péché et la faute. Mmh. Et les conséquences du péché...
Alors, quelle différence faire entre les deux, précisément, Laurent Thierry ?
Eh bien, on pourrait dire que religieusement...
Plutôt, on a oublié le péché, non, aussi, hein, parce qu'on est moins
dans une
idéologie.
Oui, enfin, on l'a oublié, la plupart. Beaucoup de gens ne pensent pas en termes de péché.
Oui, d'ailleurs, même lui, Pascal,
voilà.
Demande...
Mais même ceux qui pensent en termes de péché, mmh. c'est-à-dire que les chrétiens patentés, ne peuvent pas s'empêcher quand même de regarder le péché à travers la catégorie pénale. S'il ne pouvait pas faire autrement, est-il encore pécheur ? Alors le problème, si le péché est une maladie, si c'est un désastre, si c'est une espèce d'inscription anthropologique du malheur, quand quelqu'un est malheureux, vous ne posez plus la question de savoir si c'est sa faute ou pas sa faute.
Ouais.
Vous cherchez à lui redonner un peu goût de vivre. Quand quelqu'un est gravement malade, vous ne demandez pas pourquoi c'est tombé sur toi et pas sur ton voisin. Vous dites, on a peut-être une cure qui pourrait faire quelque chose pour vous. Donc, c'est plus du tout la logique de la responsabilité.
Mais ça, c'est vraiment intéressant, en fait, qu'on ait oublié cette dimension-là, voilà. Laurent Thierry. Parce que ça veut dire aussi qu'on réhabilite, en pensant la grâce, non pas à Dieu ou le péché originel, mais l'aide aussi, en fait, le fait d'être dans le secours de quelqu'un d'autre. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, le care ou le soin ou la sollicitude.
Pour donner une définition du péché, qui soit pas d'emblée moral et juridique, et même du péché originel, moi j'aimerais à dire que c'est ce qui fait qu'on produit soi-même son malheur en voulant être heureux.
Ah, bon, d'accord.
Comme définition. Alors elle a toutes les limites d'une définition synthétique. Mais on ne va pas dire à quelqu'un, on ne va pas lui faire honte de ce qui se rend lui-même malheureux. Mais l'espèce de perversion qui fait qu'on contribue chacun à son propre malheur, c'est ce qu'un chrétien pourrait appeler le péché. Et c'est ce que la grâce est censée résoudre, réparer, restaurer.
Tout le problème étant que la grâce n'est pas accordée à tout le monde. Est-ce qu'on voit un début de réponse dans cette quatrième lettre, Anne-Régent Susini, sur à qui est accordée la grâce ? Si on veut réhabiliter la grâce, le problème c'est qu'on ne peut pas la réhabiliter pour tout le monde. Ça, comment on y fait face avec Pascal ?
Alors là, c'est un problème complexe qui nous mènerait sans doute au-delà des limites de cette émission. Mais ça dépend de quelle grâce on parle, en fait.
Dans le texte, il parle quand même des pécheurs à demi et des francs pécheurs. Donc, en fait, il y a quand même cette question de la grâce qui distingue déjà des types de péchés à qui serait-elle accordée et surtout ne pas arriver à une absurdité qui consisterait à accorder la grâce à des gros pécheurs, si je puis dire, des francs pécheurs.
Alors, il y a tout de même l'idée que la grâce... Contre, par exemple, les calvinistes, l'idée que la grâce est proposée à tous. Mais la question est de savoir comment se noue ou ne se noue pas, ou à quel moment se noue la collaboration entre l'homme et la grâce qui lui est accordée. Hein. Et donc, ce qui est en question, ça va être de savoir si l'homme peut commencer sans la grâce à cheminer vers le bien. Est-ce qu'il peut prendre l'initiative même sans la grâce ? Ou est-ce qu'il faut de toute façon déjà la grâce pour se mettre en chemin ? Donc là, je crois que le cœur de l'opposition va être en cet endroit, à l'intérieur de l'Église catholique. Hein. Je mets de côté d'autres positions, en particulier les positions protestantes. Mais la position à laquelle on va arriver du côté de Port-Royal va être, au fond, l'idée que l'homme est toujours, d'une certaine manière, acteur, malheureusement, de sa damnation, de son non-salut. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est lui qui, parce qu'il est certes abandonné de Dieu à ce moment-là,
va échapper au salut qui lui était proposé, mais qu'en revanche, le salut vient entièrement.
Ça veut dire responsable de ses malheurs, mais pas responsable de son bonheur, d'une certaine manière.
On pourrait dire, en tout cas, ce sont deux causalités qui ne fonctionnent pas exactement de la même manière.
Je vous donne la parole juste après. J'aimerais Laurent Thirouin, parce que le temps vraiment presse, qu'on écoute quand même ce texte des Écrits sur la grâce qui va nous permettre de répondre à cette question pour conclure l'émission.
Pour sauver ses élus, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour satisfaire à sa justice et pour mériter de sa miséricorde la grâce de rédemption, la grâce médicinale, la grâce de Jésus-Christ, qui n'est autre chose qu'une suavité et une délectation dans la loi de Dieu, répandue dans le cœur par le Saint-Esprit, qui non seulement égalant, mais surpassant encore la concupiscence de la chair, remplit la volonté d'une plus grande délectation dans le bien que la concupiscence ne lui en offre dans le mal. Et qu'ainsi, le libre arbitre, charmé par les douceurs et par les plaisirs que le Saint-Esprit lui inspire, plus que par les attraits du péché, choisit infailliblement lui-même la loi de Dieu par cette seule raison qu'il y trouve plus de satisfaction et qu'il y sent sa béatitude et sa félicité. De sorte que ceux à qui il plaît à Dieu de donner cette grâce se portent d'eux-mêmes par leur libre arbitre à préférer infailliblement Dieu à la créature. Et c'est pourquoi on dit indifféremment ou que le libre arbitre s'y porte de soi-même par le moyen de cette grâce, parce qu'en effet il s'y porte, ou que cette grâce y porte le libre arbitre, parce que toutes les fois qu'elle est donnée, le libre arbitre s'y porte infailliblement.
Laurent Thirouin, on vient d'entendre un extrait des Écrits sur la grâce de 1655. Lu par Nicolas Berger. On y retrouve l'idée que vous disiez au tout début de l'émission, hein, sur ce désir de faire le bien. Est-ce que c'est de cette manière qu'on peut comprendre cette articulation entre le libre arbitre et la grâce ?
Oui, certainement, mais on ne répondra pas à la question que vous souleviez, pourquoi lui et pas moi ? Ce qui sont deux questions différentes. Mmh. Mais sur le mécanisme... Mais sur lesquelles il y aurait des choses aussi à dire, autres. Mais en effet, sur le mécanisme de fonctionnement de la grâce en milieu augustinien, le texte est parfait. C'est-à-dire, c'est vraiment le sentiment d'une suavité, d'un plaisir. C'est-à-dire que mon vouloir change. Mais la question anthropologique centrale est vraiment moderne, qui n'est pas devenue éculée, c'est quelle maîtrise ai-je de mon propre vouloir ? Pourquoi est-ce que je veux ce que je veux ? Et pourquoi est-ce que je serai libre de vouloir autre chose que ce que je veux ?
Anne-Régence Fusini, pour conclure.
Oui, tout à fait. Je trouve que ce texte est important parce qu'il permet peut-être aussi de rectifier l'idée qu'on se fait parfois un peu rapidement de la spiritualité port-royaliste ou janséniste, si l'on veut, comme une spiritualité sombre. Il y a ici une mise en évidence lumineuse, je trouve, de ce qui fait... On retrouve finalement les différentes acceptions du terme de grâce que Laurent Thirouin rappelait au début. C'est-à-dire qu'elle est aussi charis, elle est aussi ce qui attire la grâce au sens de gracieux, etc. Elle est ce qui nous promet la plus grande délectation parce qu'elle attire en nous le plus haut amour. Et il y a donc une convergence entre vouloir aimer et être délecté, c'est-à-dire atteindre une forme de suprême bonheur qui me semble tout à fait importante dans ce texte.
Jesus, help me find.
Merci à vous deux, Anne, Régence Fusini et Laurent Thirouin. Laurent Thirouin, de vous, on peut lire Pascal ou Le défaut de méthode, lecture des pensées selon leur ordre aux éditions Honoré Champion. Et de vous, Anne, Régence Fusini, on peut lire L'éloquence de la chair, les sermons de Saint-Augustin à nos jours aux éditions du Seuil. Il est l'heure maintenant de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Comment la bioéthique affronte-t-elle le tragique? On est toujours surpris par le retour, parfois sans fin, qui nous paraît parfois interminable, des grands débats de ce qu'on appelle la bioéthique. Il s'agit des débats autour de la loi générale de bioéthique qui revient tous les 7 ans, avec des débats qui agitent la société, d'autres qui sont en fait cruciaux mais qui sont beaucoup moins visibles, par exemple sur la génétique, les projets de la médecine génomique ou bien l'intervention de l'intelligence artificielle dans la médecine. Mais il s'agit aussi, par exemple, des débats qui semblent traité, mais qui ne cesse de revenir sur des questions qui peuvent sembler tragiques. Par exemple, la question de la mort, la question de la fin de vie dans une société démocratique et dans un cadre médical, puisque le terme de fin de vie désigne bien entendu une situation de mort prochaine dans un cadre médical causé par une maladie affrontée par les médecins dans une société où la médecine lutte d'abord contre la mort. On devient donc un peu sceptique sur la bioéthique. On se dit comment se fait-il que ce sujet qui a déjà été traité par plusieurs lois ne cesse de revenir, que tous les sujets de bioéthique ne cessent de revenir. Certains croient qu'il y a des pentes glissantes infinies sur la procréation, sur la génétique, sur la transformation du monde, et on a peur de la bioéthique. Or, c'est peut-être le contraire qu'il faut dire. Peut-être que la bioéthique, dans son retour même, dans sa précision même, dans son histoire créatrice de concepts et de compromis qui permettent à une société d'affronter le tragique, peut-être justement la bioéthique est-elle un modèle, un des rares lieux où les humains donnent l'exemple de leur capacité à affronter des drames qui font partie de leur vie, du négatif qui fait partie de leur vie, non seulement à travers la mort en général, comme dimension tragique de la vie humaine, mais à travers les conflits autour de la mort. Les conflits, d'abord la violence, tout simplement, puisque la bioéthique n'est pas seulement la lutte contre la mort, mais la lutte contre la violence qui peut intervenir dans le soin lui-même, ce que nous appelons des violations médicale, par exemple. Mais la bioéthique lutte aussi contre le tragique dans la mesure où elle lutte contre des conflits qui peuvent intervenir entre les humains à propos de ces drames terribles et même, je dirais presque même, sans violence a priori entre des représentations du monde qui sont légitimes mais qui peuvent en venir à des conflits mortels et à des guerres civiles. Ainsi, l'évolution de la bioéthique, ça n'est pas seulement au fond dû à des évolutions techniques qui font surgir des nouveaux problèmes, des nouvelle contradiction entre ces conceptions légitimes du monde et des nouveaux risques de violence aussi, politiques ou économiques ou morales. Mais la bioéthique, c'est aussi un raffinement de plus en plus grand dans la conciliation de nos contradictions intimes, de la conciliation de nos éthiques. C'est pourquoi la loi sur la fin de vie, qui est probablement indépendante désormais des lois de bioéthique, et la loi sur l'aide à mourir, fait partie aussi des évolutions qui font qu'il ne s'agit pas seulement d'un inventer des nouveaux concepts pour le plaisir, mais d'être de plus en plus précis dans la conciliation des contradictions. Ainsi, le concept d'aide à mourir, comme le concept de don dans la greffe d'organes, y compris de dons venant de personnes décédées, ce qui était presque impensable pour un être humain. Comment un être mort peut-il encore faire don de quelque chose à quelqu'un de vivant? Et pourtant, la loi reconnaît ce don venant de personnes décédées. Ce n'est pas le lieu d'y entrer. Mais l'aide à mourir, précisément, est très précise dans la mesure où ça n'est pas un soin, où ça n'est plus un soin, mais c'est encore une réponse à une demande dans un cadre médical. Il faut qu'elle soit circonscrite, il faut qu'elle soit définie, mais ce sont des catégories très précises qui permettent aux humains d'affronter toutes les dimensions du tragique dans leur vie et dans leur société.
Merci beaucoup Frédéric et merci à toute l'équipe, Carla Michel, Axel Dubois, Anna Fulpin, Antoine Ravon, Nassim El Kabli, Corinne Amar et Luna Adjla, à la réalisation et à la lecture des textes Nicolas Berger, à la prise de son Ludovic Auger. Pour retrouver toutes les émissions d'Avec Philosophie, rendez-vous sur le site et l'application Radio France.